VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Gueye en direct de Washington pour cette édition de 18h30 en universel du jeudi 25 janvier 2018 au sommaire. Plus de 25 personnes tuées dans le centre du Mali, leur bus a sauté sur une mine. Au Tchad, une partie de la société a maintenu sa manifestation malgré une présence massive des forces de l'ordre à N'Djamena. Au Sénégal, les autorités judiciaires annoncent l'arrestation du planificateur présumé de l'assassinat de 14 coupeurs de bois en Casamance. Le président américain au Forum économique mondial de Davos, c'est une première depuis Bill Clinton.
Tout ce monde a besoin de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de discuter des grands défis qui se posent au système économique, voire aujourd'hui aux relations internationales dans le monde.
Donald Trump, qui par ailleurs a estimé que les Palestiniens ont manqué de respect aux États-Unis, est menacé de couper l'aide s'ils ne reviennent pas à la table des négociations. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Dans le centre du Mali, un véhicule de forêt a sauté sur une mine, faisant au moins 26 morts. Le véhicule est entièrement calciné et il n'y a eu aucun survivant. Il venait du Burkina Faso pour le marché hebdomadaire qui se tient jeudi à Boni. Pour un témoignage, Modibo Dembélé a joint sur place Amboura Tamboura, un habitant de Boni.
Le véhicule qui quittait Burkina pour se rendre au marché de Boni, à 8 km de Boni, la mine a explosé. Il y avait un survivant qui est arrivé au dispensaire, seulement il a perdu l'âme aussi. Les 26 passagers, tout, le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est mort.
On aura appris qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire le décompte des biens appartenant aux personnes décédées.
On vient d'appeler le CV, il vient de rentrer. Je le vois rentrer à la mairie pour voir avec le maire et les conseillers, d'autres conseillers pour compter le nombre de l'argent. Parce qu'il disait 1 800 000 et poussière là-bas. Ils sont là à recompter.
Et est-ce que vous avez une idée par rapport à l'identité des personnes qui sont décédées?
Il y a les gens de Wurofassi, 8 personnes, et les gens de Nisenata, 6 personnes, Tamasek, 10, le chauffeur et l'apprenti.
C'était Amboura Tamboura, un habitant de Boni dans le centre du Mali. L'armée malienne a annoncé avoir tué 5 assaillants et perdu 2 militaires en repoussant 2 attaques djihadistes présumées dans le centre du pays. L'une des attaques a eu lieu dans le secteur où étaient stationnés 36 gendarmes maliens qui ont déserté la semaine dernière et ont été mis aux arrêts à Bamako. Ils attendent leur comparution au conseil de discipline. Au Sénégal, l'homme soupçonné d'avoir planifié le massacre de 14 jeunes en Casamance et 15 autres ayant participé à la tuerie font partie des 24 suspects arrêtés. Un procureur a fait le point sur l'enquête. Les explications de Yacouba Ouedraogo.
D'après Alioune Abdoulaye Sila, procureur de Ziguinchor, l'attaque a été planifiée et exécutée par une personne pour le compte de 2 villages. Il a ajouté qu'elle a été menée sous les ordres d'un lieutenant d'une faction rebelle. Monsieur Sila n'a toutefois pas donné de détails sur le village ou la faction rebelle concernée. Il a souligné qu'une partie des armes et munitions seraient venues des bases d'un cantonnement rebelle. Il a aussi confirmé que celui qui a planifié l'opération a été placé en garde à vue avec 15 autres personnes qui ont pris part à la tuerie. Le colonel Issa Diak de la gendarmerie a conclu à une implication directe des suspects en détention. 14 jeunes qui cherchaient du bois dans la forêt de Bayotte ont été tués le 6 janvier. Depuis, 16 personnes, dont un journaliste, ont été inculpées pour assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes. 8 autres ont été interpellés le week-end dernier.
Un proche du président nigérien Muhammadu Buhari a été placé en détention provisoire pour corruption. Babachir Lawal, l'ancien secrétaire général du gouvernement, est dans les locaux de la commission des crimes économiques depuis hier. Limogé en octobre dernier, Babachir Lawal est notamment suspecté d'avoir accordé des marchés à des entreprises dont il est lui-même le directeur pour des projets de reconstruction dans le nord-est du pays dévasté par des années de conflit avec Boko Haram. Au Tchad, malgré l'interdiction formelle des autorités en charge de la sécurité publique, une partie de la société civile a maintenu son appel à manifester. Une manifestation pacifique pour protester contre les mesures d'austérité, la hausse du prix de carburant et l'augmentation du taux d'inscription des étudiants tchadiens et bien d'autres mesures. mais elle a été réprimée par la police. André Kodmajingar nous fait le point à N'Djamena.
Les espaces publics, les terrains de sport et tous les carrefours de la capitale sont occupés tôt le matin par les éléments de la police, de la gendarmerie et ceux de la garde nomade, y compris les chiens policiers pour contenir un éventuel débordement. Ceux qui ont tenté de faire face aux forces de l'ordre ont été bastonnés. D'autres sont arrêtés puis libérés à la mi-journée. C'est le cas du président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnael Nili Versinis, qui a été arrêté et bastonné dans la voiture en route vers le commissariat puis enfermé quelques heures avant d'être libéré. Quatre militants de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains seraient également entre les mains de la police. Le collectif des jeunes cadres indiens du MPS parti au pouvoir soutient cette action. Le porte-parole du dit collectif, Frank Nakingar, donne les raisons.
Les denrées alimentaires sur le marché augmentent pendant qu'on diminue les salaires, c'est ce qu'on ne comprend pas. L'essence, le pétrole, on le produit maintenant. Pourquoi on l'augmente? Pour une fois, il faut quand même qu'on laisse le peuple s'exprimer pour voir le degré de mobilisation des gens.
Jim Ewiché, directeur de publication du journal Aluida, un journal en ligne qui a tenté de couvrir cette manifestation, a été pris à partie par les policiers. Les établissements scolaires sont restés fermés et l'Internet est coupé à minuit et rétabli ce jeudi à la mi-journée. André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
La défense d'un ex-député américano-gabonais détenu depuis plus d'un an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016 au Gabon a saisi la justice pour des actes de torture présumés en prison. Selon la plainte, l'ex-député Bertrand Zizi Abeye a été torturé par des agents des services pénitentiaires qui l'ont flagellé à l'aide de câbles électriques ou de tuyaux de plomberie après la découverte d'un téléphone portable dans la cellule qu'il partage avec de nombreux autres détenus. La mission de l'ONU en Libye demande la remise immédiate d'un commandant des forces du maréchal Khalifa Haftar à la Cour pénale internationale. Une demande qui intervient après de nouvelles accusations d'exécution sommaire à son encontre. Selon des témoins et une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, cet officier aurait exécuté hier en public une dizaine de djihadistes présumés en guise de vengeance après le double attentat qui a fait près de 40 morts dans la ville de Benghazi. En Égypte, une statue colossale du légendaire pharaon égyptien Ramsès II a été installée ce jeudi à l'entrée du futur musée du Caire. Les autorités espèrent que ce musée permettra de stimuler le tourisme, secteur d'activité vitale en Égypte. Cette statue de Ramsès II, vieille de 3200 ans, accueillera les futurs visiteurs du grand musée égyptien qui ouvre ses portes cette année après de multiples reports.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump est au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Il est le premier président américain en exercice à se rendre à ce sommet depuis Bill Clinton en l'an 2000. Les précisions avec Dilly Dico.
Plusieurs délégations à Davos anticipent des désaccords si Donald Trump choisit de mettre en avant l'Amérique d'abord dans son discours à la clôture du forum demain, vendredi. Borj Brende, président du forum, dit croire fermement au dialogue et pense que le fait que le président des États-Unis soit présent est un signe d'ouverture à une discussion sur une mondialisation plus équitable. Le président Donald Trump a récemment mis en place des taxes sur plusieurs produits d'importation et demandé la restructuration de certains accords de commerce. Mardi, il a signé un décret imposant de lourdes taxes sur l'importation des machines à laver et des panneaux solaires en précisant que les États-Unis n'allaient plus se laisser faire. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Washington veut rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial.
Par ailleurs, le président Donald Trump a estimé que les Palestiniens avaient manqué de respect aux États-Unis et annoncé la suspension de plusieurs centaines de millions de dollars d'aide à moins qu'ils n'acceptent de participer à des pourparlers de paix sous l'égide de Washington. Des responsables palestiniens ont rejeté les propos du président Trump. « Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n'est pas manquer de respect, c'est se respecter soi-même », a déclaré Anan Ashrawi, haute dirigeante de l'Organisation de libération de la Palestine. Le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Paul Ryan, a déclaré qu'une alliance stratégique entre les États-Unis et la Russie était exclue dans la guerre en Syrie. M. Ryan, qui participait à un débat public à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, au lendemain d'une visite en Arabie saoudite, pas d'alliance stratégique Washington-Moscou, a-t-il répété. Je ne pense pas que la Russie envisage cela non plus. Un porte-avions américain va accoster au Vietnam en mars. C'est une première historique pour ces deux anciens ennemis, aujourd'hui alliés, pour contrer la montée en puissance de Pékin en mer de Chine méridionale. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont lancé à Sofia la dernière ligne droite de la réforme du système d'asile européen. C'est la première réunion organisée par la présidence bulgare du Conseil de l'Union, qui a été chargée de finaliser un accord d'ici le début de l'été dans ce dossier bloqué depuis plus d'un an et demi. Le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a admis que ce sera difficile en raison du rejet par des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la République tchèque de quotas d'accueil de demandeurs d'asile. L'Allemagne demande à l'OTAN l'ouverture de discussions suite à l'intervention turque dans le nord de la Syrie contre une milice kurde, ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie allemande, qui a demandé donc l'ouverture de l'OTAN. Sigmar Gabriel a aussi annoncé le report d'une autorisation d'exportation d'armes allemandes à la Turquie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco avec Eric Manerekiza.
La Côte d'Ivoire a mobilisé près de 7 milliards de dollars de recettes fiscales et douanières en 2017. Abidjan a enregistré un excédent de 304 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Cette année, l'objectif global est de réunir plus de 7 milliards de dollars. Ces recettes permettront de financer en partie le budget qui s'élève à plus de 12 milliards de dollars. Le pays a aussi prévu de lever plus de 2 milliards de dollars sur les marchés financiers régionaux de l'UEMOA et international cette année. Stratégie de croissance et de transformation à Madagascar à l'horizon 2030. Baptisée Finzatrata 2030, émergence et renaissance, qui fixe comme priorité l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition. Ce plan ambitionne de créer 5 millions d'emplois et multiplier le produit intérieur brut par 3,5. Les marchés financiers ont été pris de court ce mercredi. Le secrétaire américain du Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Dans la foulée, le billet vert a perdu 1% et l'euro a grimpé au plus haut depuis plus de 3 ans. Washington vise à rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial. Cette démarche tranche avec la traditionnelle doctrine américaine.
Présent la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
Et oui, on attend les quarts de finale. Ils commencent ce week-end dans le royaume chérifien. À noter samedi, le pays organisateur, le Maroc, qui a terminé premier du groupe A face à la Namibie, deuxième du groupe B. Ce match aura lieu au stade Mohamed V à Casablanca. Toujours samedi, la Zambie, qui a terminé première du groupe B, affrontera le Soudan à Marrakech. En fin dimanche, le Nigeria face à l'Angola, ce sera à Tanger. Et puis le Congo-Brazzaville, qui a terminé premier du groupe D, qui affrontera la Libye. Ce sera toujours dimanche à Agadir.
Tennis Open d'Australie, le premier finaliste est connu chez les hommes.
Marin Cilic a bien négocié son duel face à Kyle Edmund en demi-finale de cet Open d'Australie. Le score 6-2, 7-6, 6-2. Le Croate va jouer sa troisième finale en Grand Chelem et chercher un deuxième titre après l'US Open en 2014. Il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale demain entre Roger Federer et le jeune prodige sud-coréen Chung.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston n'a pas fait de détails face à son grand rival texan, Dallas, surclassé 104 à 97. Boston a renoué avec la victoire après 4 défaites de suite. Les Celtics qui s'imposent sur le parquet des Clippers de Los Angeles, 113 à 102. À l'ouest toujours, le duel entre les frères Gasol a tourné en faveur de Pau et de San Antonio. Les Spurs, sans LaMarcus Aldridge, laissés au repos, ont dominé Memphis, 108 à 85. Utah s'est imposé à Détroit, 98 à 95. Enfin, l'équipe en forme du moment, Philadelphie, a submergé Chicago 115 à 101.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Au Cameroun, les échéances électorales de 2018 mobilisent déjà l'ensemble des acteurs politiques. Alors que les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent, les alliances politiques de l'opposition se forment. Pour sa part, l'organe en charge d'organiser les scrutins a mis sur pied de nouvelles stratégies pour la distribution de cartes d'électeurs. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Le parti au pouvoir a d'ores et déjà envoyé ses responsables locaux sur le terrain, avec pour mission veiller à l'inscription des militants sur les listes électorales, ainsi qu'au retrait de leurs cartes d'électeurs. En 2018, de nombreux élus locaux, sénateurs, députés, conseillers municipaux et un président de la République devront sortir des urnes en vue de l'élection présidentielle. Akeremouna a été fait candidat d'une plateforme de l'opposition le 15 janvier dernier. Un choix qu'analyse Sam Séverin Angot, porte-parole du candidat Akeremouna.
Pour ce qui a été déclenché le 15 janvier dernier est tout simplement le commencement d'une ère nouvelle. 2018, c'est le tournant pratiquement. Il faut aller conquérir ces suffrages-là. Vous avez les trois quarts du pays qui ne se sont pas intéressés au vote.
Mercredi dernier, le secrétaire général du Social Democratic Front a annoncé à la presse que le comité exécutif national du SDF s'y tiendra le 9 février prochain. Bien avant cela, une alliance entre le SDF et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dirigée par Maurice Kamto, pourrait se nouer. Confirmation avec Sosten Médard Lipote, conseiller du président du mouvement pour la renaissance, MRC.
Les rencontres ont commencé depuis plusieurs jours et vont se poursuivre d'ailleurs avec des leaders de la société civile, la société politique, des personnalités indépendantes aussi, pourquoi pas, et qui sont marquantes et qui peuvent contribuer à l'évolution des choses et notamment dans le sens d'une véritable alternance politique au Cameroun.
La mobilisation actuelle pour les scrutins de 2011 concerne aussi les formations de la majorité présidentielle. C'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Léonide Mvoum, membre du secrétariat national à la communication de l'UNDP.
Nous observons et nous lisons l'actualité telle qu'elle se déroule et nous sommes en capacité de pouvoir réagir. Il y a des actions qui ont été prises pour préparer les élections, notamment le renouvellement des organes de base de notre parti.
Seul bémol de cette mobilisation, les Camerounais électeurs, 6,5 millions seulement, sont inscrits sur les listes électorales et un certain nombre n'a pas encore retiré les cartes d'électeur, obligeant Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les 10 scrutins, à entreprendre depuis la semaine dernière le porte-à-porte, l'envoi des SMS aux propriétaires des cartes non retirées. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président a-t-il changé les États-Unis? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les Nations Unies menacent le gouvernement malien et les groupes armés dans le nord de sanctions pour le non-respect des accords signés en 2015. Le Conseil de sécurité a donné jusqu'à la fin mars 2018 aux deux parties pour faire des avancées dans l'application de l'accord de paix. Blanche Sanou a recueilli la réaction de Hamey Maman Maïga, vice-président des Jeunes Patriotes de Gao.
Le gouvernement malien n'est pas seulement à être accusé de cette histoire, parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut vivre une rébellion en même temps le djihadisme et chercher à combattre, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ces deux fronts. C'est difficile pour un gouvernement, ça, qu'on soit très clair là-dessus. Aujourd'hui, ce que l'ONU est en train de demander, qui est de menacer le gouvernement ou bien les groupes armés, c'est très bien, mais ce n'est pas le gouvernement qu'il faut réellement menacer, mais plutôt les groupes armés. les détenteurs de ces armes-là sur le territoire. Parce que ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de violer sur le terrain, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de déposer ou déposséder les gens de leurs biens, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de piller à travers des gens, mais certaines de ces actions-là ont été faites sous les yeux de ceux qui sont venus nous aider. Donc c'est pour vous dire que réellement aujourd'hui, c'est bien qu'ils soient des hommes, parce qu'eux-mêmes, ils en ont perdu beaucoup d'hommes dans leur mission de la paix, que l'ONU n'a jamais connue, si ce n'est pas au Mali. Donc nous sommes vraiment fiers qu'ils comprennent que leur faiblesse, là, de rester dedans, il faut changer de fusil d'épaule, il ne serait pas bon d'être tout le temps faible.
Pensez-vous que les élections présidentielles puissent avoir lieu en juillet prochain?
Aujourd'hui, tous les Maliens, ils doivent le savoir que depuis la première fois où on a eu à faire les élections après 2012 pour élire Ibrahim Boubacar Keïta, qui est notre président aujourd'hui, que les élections n'étaient pas possibles au Mali. Parce que de un, quand tu prends le territoire, à partir d'une large majorité de la région de Tombouctou, de Kidal, de Gao, quand tu prends même le cercle, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas une armée nationale pour garantir ces élections, il n'y en a pas. C'était des élections, on peut dire en toute sincérité, en toute honnêteté, qui devraient être une élection où il faut mettre tous les composantes de la société civile dans cette histoire de gestion du pays pour pouvoir préparer un référendum après le référendum passé aux élections présidentielles. En toute vérité, on n'a même pas une constitution qui va nous garantir cela. Cette constitution qu'on a de 1991 est vraiment obsolète. Donc vraiment, moi, personnellement, ce que je souhaiterais quand même, en tant qu'activiste, je vais le dire, les hommes politiques maliens, ils n'ont qu'à être corrects, ils n'ont qu'à être honnêtes et dire la vérité au peuple malien. Le peuple malien doit savoir qu'il ne peut pas avoir des élections crédibles parce que l'armée nationale n'est pas partout. Ça, c'est de un. De deux aussi, comment est-ce qu'on appelle, l'autorité de l'État ne se trouve pas partout. Les commandants de cercle et autres, là, ils sont dans des régions proches de leur zone. Il ne peut pas avoir d'élections crédibles. Il y a les djihadistes un peu partout. Il y a la rébellion un peu partout. Il faut que les gens se mettent ensemble pour quand même combattre une seule chose. On ne peut pas combattre tous les rébellions et les djihadistes en même temps organiser une élection. C'est faux. Ce n'est pas possible.
C'était Hamay Maman Maïga, vice-président des jeunes patriotes de Gao au Mali.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Burkina Faso a créé des caisses spéciales pour la mise en œuvre d'une loi sur l'assurance maladie universelle qui a été votée en 2015. Le nouveau système de santé qui sera lancé cette année prévoit d'étendre progressivement la couverture maladie à tous les Burkinabés. Nathalie Barge a joint Siaka Koulibaly, analyste politique et acteur de la société civile.
Il faut déjà dire que ce projet n'est pas un nouveau projet et plusieurs organisations de la société civile qui travaillent sur le sujet avaient demandé son opérationnalisation il y a déjà un certain temps de cela. Alors, le gouvernement expliquait qu'il travaillait sur ce mode de financement de cette assurance maladie, argument que l'on trouvait assez léger dans la mesure où, essentiellement, les cotisations sont assurées par les bénéficiaires eux-mêmes, et d'une manière ou d'une autre, par des cotisations, soit prélevées directement dans le salaire, soit prélevé par les versements qui sont opérés par ceux qui ont besoin d'accéder à l'assurance universelle. Maintenant, on attend de voir le projet final présenté par le gouvernement, quelles seront les articulations, et sans doute que cela va donner lieu encore à quelques négociations avec les organisations sociales en vue de parfaire le document et le projet de l'assurance anti-universelle.
Alors sur le mode de fonctionnement, on parle notamment d'intégrer les mutuelles dans le système public de santé. Est-ce que c'est une bonne initiative selon vous?
Les mutuelles auront essentiellement pour but de recevoir les cotisations et de s'assurer que les prestations de soins de santé soient effectivement accessibles aux bénéficiaires qui auront souscrit à l'assurance santé. Donc c'est plus un travail d'organisation, un travail administratif qui va venir compléter ce que l'État pourrait faire à la matière et qui pourrait être un travail de surveillance de la qualité des soins prodigués et autres. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir un mécanisme subsidiaire de solidarité qui permette aux mutuelles de travailler aux côtés des services de l'État.
Et est-ce que ce futur système d'assurance va permettre réellement, dans le temps, aux personnes très démunies de pouvoir bénéficier d'une assurance gratuitement?
Ah, si on applique effectivement les principes connus en la matière, je pense que cela va être une très grande assistance aux personnes démunies. Dans la mesure où, dans le pays voisin, au Ghana, à côté, cette assurance fonctionne jusque dans le dernier village, avant la frontière burkinabé. Et on sait que dans les hameaux de culture, dans les villages, les populations arrivent à bénéficier des assurances santé. Donc il n'y a aucune raison que au Burkina Faso, cela ne puisse pas être disponible, en particulier pour les personnes les plus démunies. Et je pense que ça aussi, ça peut faire partie des échanges, des négociations que les organisations sociales, en particulier les mutuelles, vont mener avec le gouvernement.
C'était le politologue Siaka Koulibaly. Vous pouvez suivre l'interview dans son intégralité sur voafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Forum économique mondial se tient à Davos, en Suisse. Les défenseurs du libre-échange rivalisent avec le protectionnisme américain cher au président Donald Trump qui se trouve sur place. Pour savoir la genèse et les enjeux de Davos, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli de l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Ce forum, en fait, est quelque chose de beaucoup plus large que Davos. C'est le Forum économique mondial et Davos est la réunion annuelle. Et participent à ce forum tous les acteurs économiques qui le souhaitent, en termes clairs, les entreprises qui sont prêtes à payer la cotisation.
Pourquoi le choix de Davos?
Tout simplement parce que le Forum économique mondial a été créé en Suisse et par conséquent que son créateur, M. Schwab, a choisi très logiquement une ville relativement attractive, pour le coup en Suisse, une station de sport d'hiver dans les Alpes, pour organiser son forum et faire venir et attirer autant d'entreprises et de représentants de la presse, des intellectuels, mais aussi des politiques dans un lieu relativement paradisiaque, en plein mois de janvier. C'est une station, d'ailleurs toujours aujourd'hui, de sport d'hiver assez huppée. Donc il y avait également des hôtels, il y avait des structures hôtelières qui pouvaient accueillir toutes ces entreprises et toutes ces personnes qui voulaient participer à Davos.
Comment détermine-t-on les pays qui participent à ce forum?
En fait, le forum de Davos, ou le forum économique mondial, a été mis en place au début des années 70, dans une période des années 70 où les pays capitalistes, on est en pleine guerre froide, hein, donc les pays capitalistes entrent dans une période de crise et de doute, et ce forum visait à discuter de l'avenir du capitalisme, discuter de l'avenir de ce système libéral, essayer de trouver des solutions aux différents problèmes. Donc on est vraiment dans un forum de discussion, et c'est à ce titre qu'au-delà des entreprises qui participent financièrement, on invite un certain nombre de dirigeants politiques, voire aussi des stars diverses et variées, et des représentants des ONG, du monde universitaire, parce que tout ce monde a besoin de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de discuter des grands défis qui se posent au système économique, voire aujourd'hui aux relations internationales dans le monde.
Justement, quels sont les enjeux?
Alors, on ne prend pas de décision à Davos. On est vraiment là pour discuter, pour échanger les idées qui sont en vogue, les idées qui se développent, les initiatives qui peuvent être prises.
Y a-t-il un intérêt particulier pour les Africains?
C'est déjà une bonne question qui est très compliquée. Davos n'est pas un forum où on décide en particulier d'investir ou d'aller soutenir un pays en développement. C'est un forum où on échange et où on négocie. Et on négocie entre gens puissants, entre gens riches, donc forcément entre chefs d'entreprise et parmi les plus grandes multinationales de la planète. L'Afrique est assez peu représentée. Alors il y a souvent des déclarations d'intention. C'est pas Davos qui va permettre à l'Afrique de se développer durablement.
C'était Sylvie Matelli, économiste à l'Institut des Relations internationales et stratégiques à Paris. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joseph Morissin. À la console, Wojtek Zorniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.